Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons lire la deuxième partie de ce chapitre, donc à partir du verset 18, Romains 1, verset 18, jusqu'à la fin du chapitre. Romains 1, nous commençons la lecture au verset 18. Et voici la parole de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous reprenons donc notre série sur cette lettre de Paul aux Romains. Nous avons vu l'introduction dans les versets 1 jusqu'au verset 17, et nous abordons ici cette grande partie que nous avons intitulée dans notre présentation. Nous avons décrit cette partie comme étant le cœur de l'Évangile, la justification par la foi, donc, où l'apôtre commence ici au verset 18 du premier chapitre et va nous emmener jusqu'au verset 25 du chapitre 4. Mais ce verset, ou cette partie, commence avec ce verset 18 et qui vient comme une surprise. Rappelez-vous la fin de l'introduction. Paul a donné le thème de sa lettre, le thème général de toute sa lettre. L'Évangile est la puissance de Dieu, la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile révèle la justice de Dieu à ceux qui croient. Et on pourrait s'attendre à ce que Paul va développer ces thèmes merveilleux, ces merveilleuses vérités de l'Évangile. Mais au lieu de ça, il nous parle de la colère de Dieu contre le péché. Et c'est que deux chapitres plus loin, chapitre 3, verset 21, que l'apôtre va revenir sur le thème de cet Évangile et marquer ce contraste, comme nous avons lu tout à l'heure en Éphésiens, et là marquer encore une fois un contraste de la justice de Dieu qui est révélée autrement que dans la loi. Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que Paul fait cela ? Il est clair, il me semble, que Paul fait cela parce qu'on ne peut pas saisir la nécessité de l'Évangile, la nécessité de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde comme un substitut. On ne peut pas non plus voir et admirer la perfection de cet Évangile, la perfection de cette bonne nouvelle, si l'on ne voit pas d'abord la situation, la condition désastreuse dans laquelle se trouve l'humanité. Et c'est comme, on a déjà utilisé cette image, mais c'est comme le joaillier qui veut faire ressortir la beauté éclatante d'un diamant. La pierre en elle-même, elle est belle, mais il va la mettre sur un fond qui est sombre. Et cela va faire ressortir toute la perfection de cette pierre. Et c'est la même chose ici, dans cette partie qui commence au verset 18 du chapitre 1, qui va nous mener jusqu'au verset 20 du chapitre 3. Paul va décrire la réalité sombre de la condition de l'être humain, comme Paul le dira dans sa lettre aux Éphésiens, ce que nous étions par nature, les enfants de colère. Et l'argumentation de l'apôtre Paul va se développer en différentes étapes. Tout d'abord, il va parler ici de la colère de Dieu contre le péché, cette colère qui est méritée. Les hommes ont supprimé ou ont retenu la vérité de Dieu captive. Et cela est vrai de tous les hommes. C'est ce que nous allons voir dans la fin de ce premier chapitre. Cela est vrai des païens, des non-juifs. Puis au chapitre 2, il va dire que malgré les privilèges que Dieu a accordés au peuple d'Israël, eux aussi méritent la colère de Dieu. Eux aussi se sont attirés la colère de Dieu sur eux. Et Paul résumera cela au chapitre 3 avant d'arriver à nous parler de la beauté de l'Évangile. Nous allons donc ce matin voir ce que nous dit cette fin du chapitre 1er. Nous allons diviser cela en trois parties. Tout d'abord, Paul parle de la colère de Dieu. La colère de Dieu contre le péché. Cette notion de colère de Dieu a souvent posé des problèmes. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes qui admettent l'existence de Dieu disent que Dieu doit être bon. Dieu n'a que notre intérêt à cœur et qu'il ne va pas faire quelque chose qui pourrait nous déranger. Mais quand on parle de la colère de Dieu, quand la Bible parle de la colère de Dieu, elle ne parle pas, bien sûr, d'une colère qui est émotive, d'une colère qui est d'une personne capricieuse, comme nous pouvons nous emporter dans une colère. Non, quand la parole de Dieu parle de la colère de Dieu, c'est la réaction de Dieu qui est pure, qui est saint, qui est parfait, qui ne peut pas voir le mal. Il ne peut pas tolérer le mal. Dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté sa colère à plusieurs reprises. On ne va pas toutes les citer, je citerai Exode 32. Vous vous rappelez de cette occasion quand le peuple d'Israël a fait construire ce veau d'or et en disant « voilà le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte ». En Nombre chapitre 11, c'est le feu de l'Éternel qui se déverse contre le peuple qui murmurait. La colère de Dieu va elle aussi se manifester à la fin de l'histoire. Paul le dira par exemple au chapitre 2, Romains 2, verset 5, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Romains 2, verset 5, Romains 2, verset 8, Romains 5, verset 9, Colossiens 3, verset 6, pour ceux qui veulent prendre des notes. Et on a vu dans l'Apocalypse, Jean a la vision des sept coupes, que Dieu déverse déjà sa colère pour, d'une part, punir, mais aussi pour avertir de ce jour qui vient où sa colère va se déverser de manière totale à la fin de l'histoire. Et Paul souligne que cette colère de Dieu se déverse, tombe sur ceux qui suppriment la vérité, ou notre version dit qui retiennent la vérité captive. Et là, il faut noter qu'on ne peut pas supprimer, on ne peut pas retenir quelque chose captif si on ne connaît pas cette chose. Et là, Paul est en train de dire, et comme il va le développer, que l'humanité, tout être humain connaît, a une connaissance de Dieu. C'est Dieu qui l'a révélé. C'est Dieu qui s'est révélé au travers de la création. Certaines de ses qualités divines se voient à l'œil nu, dit l'apôtre Paul. Elle est là, cette révélation naturelle. Dans cette révélation, Dieu révèle quelque chose de son existence, de sa nature à tous les hommes. Mais au lieu d'amener les hommes dans une relation avec Dieu, cette révélation va les condamner, va les rendre coupables devant Dieu. Et c'est une réalité, c'est la réalité encore aujourd'hui. Mais nous allons aller plus loin, donc voir cette deuxième partie. La raison de la colère de Dieu, c'est que la vérité est retenue captive. Et nous allons développer cela. Je pense qu'en lisant ce passage, vous avez remarqué que cette partie, les versets 21 à 31, sont... il y a cette séquence de qui est répétée trois fois. Ils ont changé. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Ils ont changé. La gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Verset 23 et 24, et puis versets 25 et 26. Eux-mêmes, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et la fin du verset 26, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés, etc. Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dans chaque cas, les humains ont placé leur Dieu avec un petit dé, ou alors leur péché à la place de la vérité que Dieu leur avait révélée. Et Dieu répond en les livrant aux conséquences de leur choix. Et c'est vrai de tous les hommes. Ils choisissent de ne pas adorer Dieu, mais d'adorer les dieux de leur imagination. Et en agissant ainsi, ils tombent encore plus dans le péché et méritent encore davantage la condamnation de Dieu. Le premier échange, versets 21 à 24, commence avec l'idolâtrie. L'homme a une connaissance de Dieu, parce que Dieu lui a donné cette connaissance. Mais l'homme refuse de reconnaître l'existence de Dieu. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont enorgueillis de leur propre sagesse. Ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre des images d'eux-mêmes, d'êtres humains, qu'ils ont fabriqués. Paul reprend ici le langage d'Exode 32 avec le veau d'or. On pourrait citer d'autres passages, psaume 106, verset 20. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ou en Jérémie 2, verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Même le peuple d'Israël. Et à cause de cette idolâtrie, Dieu les a livrés. Certains pensent que cette expression, cette action de Dieu est à mettre au passif. C'est-à-dire que Dieu a arrêté de les retenir. C'est un commentateur, Frédéric Godet, qui pense cela par exemple. Il dit « Dieu a positivement retiré sa main. Il a cessé de retenir le bateau qu'entraînait le courant du fleuve. » Mais le langage qui est utilisé suggère une action qui est beaucoup plus active de la part de Dieu. Dieu ne se limite pas seulement de ne plus retenir, non, mais il va confirmer la course désastreuse de l'homme. Il condamne ceux qui se détournent de lui aux conséquences de leurs actions. Et cela implique un cercle vicieux quelque part. Paul utilise le terme d'impureté au verset 24. Il montre que le péché d'idolâtrie va conduire à la perturbation des relations entre les hommes et les femmes, telles que Dieu les avait créées au départ. Et ce premier échange conduit au deuxième, versets 25 et 26, qui reprend cette relation entre l'idolâtrie et le péché sexuel. Versets 25 et 26, Dieu, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et puis le troisième échange parle des hommes. Paul parle des femmes et des hommes. Et il souligne par là que c'est ainsi que Dieu a créé l'humanité. Il n'y a que deux catégories, les hommes et les femmes. Il y a aussi une conduite appropriée qui découle de cette distinction entre hommes et femmes. Paul parle de relations naturelles, celles que Dieu a établies à l'origine, lors de la création. Mais comme il dit, Dieu les a livrés à leur passion et l'homme a changé ses relations naturelles contre des relations contre nature. Le fait de se focaliser sur les actes homosexuels reflète quelque part une tradition juive, dans le sens que les juifs considéraient l'homosexualité comme une évidence flagrante de l'idolâtrie et de la perversion des païens. Quelqu'un qui était homosexuel était clairement païen, clairement pervers, et c'était évident. Mais Paul souligne que ce jugement que Dieu a livré l'homme idolâtre à ses pratiques et aux conséquences de ses pratiques, comme il le souligne la fin du verset 27. Ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Mais ce n'est pas seulement des maladies comme on pourrait penser le sida et d'autres, qui sont les conséquences. Non, tout cela, tout ce que Paul décrit ici, sont des évidences de la colère de Dieu contre l'humanité qui s'est rébellée contre lui. Et c'est cette rébellion qui a amené toutes sortes de tragédies et que l'on peut encore voir aujourd'hui. Le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. On pourrait paraphraser ce verset de cette manière. Comme les êtres humains n'ont pas approuvé la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ils n'ont pas approuvé la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. C'est-à-dire que la rébellion contre Dieu, le péché de l'homme n'affecte pas seulement nos affections, nous conduisant à l'idolâtrie, il affecte aussi nos sens. Les relations sont faussées, les relations en particulier homme-femme sont faussées. Mais le péché affecte aussi notre pensée et notre manière de réfléchir. Se détourner de la véritable connaissance de Dieu signifie se couper de la véritable compréhension de ce monde et de notre place dans ce monde. Se détourner de Dieu, c'est ne plus comprendre pourquoi nous sommes dans ce monde. C'est pour ça que le monde ne comprend pas pourquoi le chrétien va prendre une certaine position morale en s'appuyant sur la parole de Dieu, puisque ces personnes, le monde autour de nous, rejettent Dieu et rejettent sa parole. Et le monde, les hommes, par nature, en arrivent à commettre des choses indignes. Paul va donner plusieurs illustrations de ce comportement pécheur. Et cette liste qu'on voit au verset 29 au 31, on pourrait le diviser en trois parties. Et notre traduction garde cette division en mettant des points-virgules entre chaque partie. Il y a tout d'abord un ordre, tout d'abord des termes généraux pour décrire le péché. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Ensuite, on voit des péchés qui affectent les relations entre les humains. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Et enfin, on a un genre de pot pourri de toutes sortes d'immoralité. Ils sont rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. On a bien sûr d'autres listes dans le Nouveau Testament, des listes similaires. Matthieu 15, verset 19, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » On pense à ce passage en Galates 5 où il y a cette opposition entre le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Galates 5, 19 à 21, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et d'autres passages, Colossiens 3, verset 5, 1 Timothée 1, verset 9 à 10. Mais Paul, en utilisant ces différents termes, veut montrer les différentes formes que peut prendre le péché. Il a mis l'accent sur l'idolâtrie, il a mis l'accent sur le fait que cela vient aussi corrompre les relations entre hommes et femmes. Mais Paul ne veut pas que certains lecteurs pensent que seuls les péchés, on dirait majeurs, sont un problème. Non, il ajoute cette liste pour qu'au moins un des termes touche le cœur de chaque lecteur. On n'adore pas l'image d'un animal, on n'adore pas une statue, mais peut-être que nous sommes rapporteurs, peut-être que nous sommes médisants, nous sommes des mauvaises langues. C'est peut-être pas aussi sérieux que le premier, mais c'est tout autant une indication de la colère de Dieu contre le péché. Dieu les a livrés. Dieu a livré les hommes, les femmes, à leur penchant et à leur impureté. Et la troisième chose, le troisième point que Paul souligne, c'est cette dernière inculpation au verset 32. Paul d'abord va redire ce qu'il a dit, les êtres humains sont dans une position de voir certaines révélations de Dieu. Il y a cette révélation naturelle, il y a la connaissance morale que l'être humain possède. Ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Les êtres humains ont une certaine connaissance du bien et du mal. Ils savent que les mauvaises actions méritent une punition. Ils le savent. La chose ensuite, c'est que la punition, le deuxième thème est celui de la punition divine sur le péché. Les pécheurs sont dignes de mort. La mort est une mort spirituelle. La condamnation, la colère de Dieu sur le péché. Sous laquelle tous les êtres humains se tiennent aujourd'hui depuis la chute d'Adam et Ève. Mais la fin du verset 32 apporte un genre de rebondissement dans l'argumentation de l'apôtre Paul. Paul dit qu'il est pire pour une personne d'approuver ceux qui pratiquent ces péchés que de les commettre soi-même. Bien sûr, Paul est le dernier à minimiser la nature sérieuse du péché. Mais ici, il veut condamner ceux qui mènent d'autres à pratiquer ces péchés en approuvant ces pratiques. Il y a dans ce monde une révélation naturelle. Dieu a laissé une évidence claire au sujet de lui-même, une évidence qui est visible à l'œil nu, nous dit l'apôtre Paul. Mais cette révélation est limitée. Paul parle de certaines perfections invisibles. Il parle de cette connaissance universelle que l'homme a, que certains de ses actes sont dignes de mort. Mais cette révélation naturelle qui est là, que Dieu a donnée, elle ne produit qu'un effet négatif. Rappelons-nous, ne perdons pas de vue, que Paul veut parler de la nécessité de la révélation de la justice de Dieu en Christ, dans l'Évangile. Et pour cela, il souligne que l'humanité est esclave du péché et incapable de s'en libérer, malgré cette révélation naturelle que Dieu a donnée. Il faut la bonne nouvelle de l'Évangile. Il faut la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde comme sauveur, comme substitut. Ici, Paul veut souligner la nature, la condition perdue, la condition terrible de l'humanité. Elle possède une révélation de Dieu. Mais cette révélation la condamne. Ils sont inexcusables, nous dit l'apôtre Paul. Les hommes retiennent injustement la vérité captive. Et Dieu est juste en déversant sa colère sur les hommes. Ils ont la connaissance de Dieu, mais ils se détournent de cette connaissance. Ils sont donc inexcusables devant Dieu. Jean Calvin, dans son Institution de la religion chrétienne, dit ceci. Voilà comment les belles lampes allumées sur le bâtiment du monde ne nous éclairent pas assez pour nous faire voir la gloire de Dieu, car elles nous entourent de leurs rayons, mais elles ne peuvent pas nous conduire sur le droit chemin. Certes, elles émettent quelques étincelles, mais elles s'éteignent avant de fournir une clarté durable. La faculté d'avoir une pure et claire connaissance de Dieu nous fait défaut par nature, et cette lenteur est un de nos vices. Nous avons cette révélation de Dieu, Dieu nous l'a donnée, mais nous ne pouvons pas, elle ne nous amène pas à le connaître Dieu. Les vérités de Dieu révélées dans la nature ne peuvent pas nous réconcilier avec Dieu. Mais Paul va s'appuyer sur cette révélation nature. Rappelez-vous sa démarche en Actes 7, les versets 17 et à 34, quand il est à Athènes. Il s'adresse, il part de cette connaissance naturelle et il l'utilise comme un tremplin pour présenter l'Évangile. La révélation naturelle a bien un but, mais il est limité. La beauté de la création peut aider les hommes à voir qu'il y a un créateur. Les traditions religieuses même des hommes peuvent renforcer les notions de péché, de jugement, de substitution. L'histoire elle-même pourrait nous mettre en avant qu'il existe un ordre providentiel, qu'il y a une providence dans les événements. Toutes ces choses peuvent stimuler les personnes à rechercher Dieu. Mais Paul souligne que cette connaissance est limitée. Sans la grâce de Dieu, sans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, cette connaissance naturelle n'amène pas les hommes à choisir, à venir adorer le vrai Dieu. Sans cette révélation de l'Évangile, sans cette révélation au sujet du Seigneur Jésus-Christ, sans sa venue dans le monde, la raison pour laquelle il est venu dans le monde, sans cette révélation de son œuvre à la croix, sans cette révélation que Dieu accorde sa justice à tous ceux qui viennent à lui dans la foi, sans cette révélation, la révélation naturelle ne peut pas apporter le salut. Et elle condamne tous les êtres humains. Elle laisse l'humanité dans son péché et sous la condamnation juste de Dieu. Voilà la réalité. Voilà la réalité de la condition humaine, de la situation de l'humanité depuis Adam et Ève, encore aujourd'hui. Voilà la situation de l'homme et de la femme dans ce monde, sous la colère juste de Dieu, parce qu'ils ne lui obéissent pas. Ils ont une connaissance de Dieu, mais ils la retiennent captive. Voilà la noirceur du coussin, pour reprendre l'image de tout à l'heure, avant de venir poser la pierre précieuse pour voir l'éclat de cette pierre précieuse. Voilà pourquoi il faut la révélation de l'Évangile. Voilà pourquoi il faut la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Le monde est coupable devant Dieu. Paul va continuer dans le chapitre 2, il va expliquer que même ceux qui ont reçu la révélation par la loi sont aussi coupables, sont aussi sous la colère de Dieu. Tout être humain, il conclura au chapitre 3, que tous sont sous cette condamnation de Dieu. Le monde entier est coupable. Paul va souligner cette réalité. Et nous devons, nous aussi, réaliser la culpabilité, la noirceur, la situation désastreuse dans laquelle l'humanité se trouve, en dehors de Christ. Pour venir, d'une part, réaliser la nécessité de la venue du Seigneur Jésus-Christ, la nécessité de la révélation de Dieu, et voir aussi la merveille, la beauté de l'Évangile, la beauté de ce que Dieu a accompli, et de pouvoir dire avec l'apôtre Paul que nous n'avons pas honte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire parce qu'il est mort dans ses péchés, parce qu'il se détourne de Dieu volontairement, parce qu'il ne peut pas, par cette connaissance naturelle, venir à Dieu. Il a besoin de cette révélation dans l'Évangile. Paul va souligner la perfection et Paul dit donc que nous aussi nous puissions dire avec Paul que nous n'avons pas honte de l'Évangile. C'est la puissance, c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, nous le verrons la prochaine fois, puis du grec, des païens. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. J'espère que l'on comprend, commence à voir la noirceur de la situation, la perdition dans laquelle l'humanité se trouve, pour voir la nécessité et la beauté de cet évangile que Dieu nous donne et que Dieu nous donne en Jésus-Christ, que nous avons, nous, besoin d'apporter à ce monde. Que Dieu donc nous aide à comprendre, à saisir la rébellion, cette réalité dans laquelle l'humanité se trouve, dans laquelle nous aussi nous faisions partie par nature. Nous étions nous aussi des enfants de colère. Mais comme nous l'avons lu tout à l'heure, et comme nous allons le voir un peu plus loin dans cette lettre, il y a la grâce de Dieu. Mais Dieu, il y a cette grâce que Dieu révèle en Jésus-Christ, mais il faut cette révélation de l'Évangile, de la justice de Dieu dans l'Évangile et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que nous aussi, face à la situation terrible et désastreuse dans laquelle l'humanité se tient aujourd'hui, que nous n'ayons pas honte de l'Évangile, mais que nous le vivions et que nous l'annoncions à ceux qui sont autour de nous. C'est le seul moyen de salut, c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.